Vous êtes sur RTL. Demain.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une, ces températures estivales et cet appel à la vigilance sur la côte atlantique. Trois personnes sont mortes noyées hier en Gironde. Dans ce journal également, bientôt une voix de moins sur le périphérique parisien. Et puis la Russie, elle, annonce l'expulsion de 34 diplomates français.
Nos deux focus à partir de 12h40, les services d'urgence qui ferment les uns après les autres. Dernier en date, celui du CHU de Bordeaux qui à partir de ce soir n'accueillera plus que les cas graves. Et à 12h50, tout autre chose, le procès qui passionne l'Amérique. Johnny Depp face à Amber Heard, son ex-épouse.
A perfect accent. Notre question du jour sur RTL.fr, ces températures estivales vous inquiètent-elles? Et c'est très partagé, vous dites oui à 49%, non à 46%. La météo justement avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
C'est donc la journée la plus chaude de la semaine.
Oui, avec des températures souvent comprises entre 30 et 34 degrés sur l'ensemble du pays. Un peu moins remarquable et plus fraîche, mais de saison près de la Manche, de 20 à 25 degrés et 24 à 27 près de la Côte d'Azur et la Corse. On a évidemment une belle journée ensoleillée avec un peu plus de nuages sur la Bretagne et quelques gouttes. Ça tourne à l'orage dans l'après-midi sur toute la façade atlantique et ce sera en soirée sur le sud de la façade atlantique.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer justement, on part pour Lyon. 33 degrés annoncés cet après-midi. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Après le parc de la Tête d'Or ce matin, vous vous êtes réfugié dans le quartier Saint-Jean pour tenter de trouver un peu de fraîcheur.
Exactement, dans le Vieux Lyon, le plus grand quartier Renaissance après Venise. Il ne manque que les canaux, mais les ruelles étroites et pavées abritées du soleil par des immeubles en pierre, en vieille pierre du 13e, 14e siècle, offrent une relative fraîcheur. Bienvenue.
Je trouve, oui, je me sens pas étouffée là dans le Vieux Lyon en marchant. On a l'ombre, donc pas de lunettes de soleil, pas de soleil dans les yeux, donc oui, c'est agréable de se balader. En plus, il n'y a pas trop de monde, donc on respire, on n'a pas le sentiment d'être étouffé, donc oui, ça va très bien.
C'est plus agréable, c'est plus au frais, et c'est enclavé, il y a de l'ombre et de l'air qui circule quand même dans les rues, donc très agréable.
Et place Saint-Jean pour allier culture, spiritualité et fraîcheur, une visite à la cathédrale s'impose.
On est un peu mieux à l'intérieur, mais elle est très belle, il faut vraiment la visiter.
C'est très agréable, c'est plus frais.
Ah oui, il y a une vraie différence, c'est un petit bonus, c'est pas désagréable.
On est bien.
Calme et fraîcheur, un mercredi, un jour des enfants, c'est bien.
Les terrasses ombragées affichent complet et les glaciers se frottent les mains, explique Antoine de la maison Nardone.
À partir de 16h, c'est énormément de monde. Il y a du monde, il y a la queue de partout. Puis nous, on a une terrasse à l'ombre, c'est glace.
C'est à courir là.
Ah ouais, on a très chaud. On perd beaucoup de kilos, mais on mange beaucoup de glace en compensation.
Voilà, de la glace, de l'eau et de l'ombre, les clés pour supporter cette nouvelle journée de très forte chaleur. 33 degrés attendus pour les maximales cet après-midi à Lyon.
Joli trio en tout cas pour faire face. Merci à vous Frédéric Perruche en direct de Lyon. Alors ça fait 38 jours consécutifs que les températures moyennes sont au-dessus des normales de saison. C'est ce qu'indique Météo France qui évoque déjà un mois de mai record. Hasard du calendrier, l'ONU présentait ce matin le bilan de l'année 2021. Gaz à effet de serre, niveau de la mer, température des océans, tous les indicateurs sont dans le rouge. Le secrétaire général des Nations Unis appelle d'ailleurs les États au sursaut.
Le système énergétique mondial est en faillite et nous pousse chaque jour un peu plus vers la catastrophe climatique. Le seul avenir possible est un avenir durable. Nous devons mettre fin à la pollution des combustibles fossiles et accélérer la transition vers le renouvelable avant de réduire en cendres la seule maison que nous avons. Et tout cela est à portée de main. Les technologies comme l'éolien et le solaire existent déjà et sont généralement moins coûteuses que le charbon et les autres combustibles fossiles. Nous n'avons plus une minute à perdre.
Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, des propos recueillis pour RTL par Jean Le Chemier.
Alors avec cette chaleur, beaucoup n'ont qu'une envie, se baigner.
Mais attention, prudence, en ce début de saison, les plages ne sont pas forcément surveillées. Rien qu'hier, trois personnes se sont noyées, trois dont deux au Cap Ferré, sur la plage du Grand Croc, où l'on vous retrouve, Philippe de Maria. Oui. Vous avez rencontré des surfeurs qui ont tenté de leur porter secours.
Exactement, Amandine. Je viens de parler avec Kim, jeune monitrice du Surf Club de la Pointe. Elle a tout fait hier pour tenter de sauver une baigneuse.
On a massé assez longtemps, puis après les pompiers sont arrivés, ils ont pris le relais. Nous, on avait posé le défibrillateur et tout. On a fait ce qu'on pouvait, après ça n'a pas suffi. Je pense que la personne était déjà dans l'eau depuis un petit temps. Le final, c'est que ça ne l'a pas fait. Les gens, en fait, continuent à aller dans l'eau et ils font pas forcément attention, alors que nous, on est en train de... Mais ils voient bien les allées et venues des pompiers. Nous, ils voient bien que c'est compliqué, c'est dangereux, mais les gens, ils sont un peu inconscients, et ils se rendent pas compte du danger et ils continuent quand même à aller dans l'eau, quoi.
Alors, encore peu de monde sur la plage du Grand Cros où je me trouve. Et ces étudiantes croisées tout à l'heure, elles sont bordelaises. Elles n'étaient pas au courant du drame d'hier.
Ah oui ? Ouf. Oui, bah du coup, ça met en perspective, puisque je pense qu'on va du coup plus se tremper les pieds et pas faire très gaffe quand même. Ouais. C'est un peu inquiétant.
Alors, des panneaux baignades très dangereuses viennent d'être rajoutés à l'entrée des plages. L'océan est sous mes yeux, est littéralement déchaîné. Heureusement, il n'y a quasiment personne dans l'eau à l'heure où je vous parle.
Philippe de Maria en direct du Cap Ferré pour RTL. 36 heures après la nomination d'Elisabeth Borne, les consultations se poursuivent. A priori, pas de nouveau gouvernement avant demain. Au mieux. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les ministres en place, eux, savent très très bien ce qu'ils veulent, William Galibert.
Oui, en résumé, ils veulent rester. C'est vrai pour les trois quarts d'entre eux. Donc, ils n'hésitent pas à suggérer des idées au patron. Après tout, pourquoi pas. Ainsi, Gérald Darmanin se verrait bien dans un grand ministère social avec le travail et les retraites. Et à défaut, il se contenterait de garder l'intérieur. Gabriel Attal pense qu'il a fait le tour de son poste de porte-parole et se sent à la hauteur du ministère de l'Éducation nationale. Sébastien Lecornu voudrait, lui aussi, un grand ministère des territoires avec également pourquoi pas le logement et les transports. Clément Beaune, monsieur Europe, a un appétit certain pour la culture. Marc Fesneau, proche de François Bayrou qui est en charge des relations avec le Parlement, ne dirait pas non à l'agriculture. Par contre, il ne veut pas des Outre-mer. Pas trop envie de prendre l'avion. Il y a ceux aussi annoncés partants comme Éric Dupond-Moretti qui, d'après nos informations, n'a pas très envie de laisser son fauteuil de garde des Sceaux. Il le fait savoir ces derniers jours. Mais comme on nous promet un gouvernement paritaire, pas trop gros et avec beaucoup de renouvellement.
Comme à chaque fois.
Tout le monde ne sera pas servi.
C'est un peu comme dans les grilles de radio d'une année sur l'autre. Tout le monde veut garder sa place.
Mais se proposer, c'est bien, mais le seul qui dispose, c'est Emmanuel Macron.
William Galibert du service politique de RTL à Paris. Anne Hidalgo le confirme. Elle veut transformer le périphérique en une grande ceinture verte. La maire de Paris prévoit d'y planter 70 000 arbres d'ici 2024.
Et
coup dur, j'en sais rien. Coup dur pour les automobilistes, en tout cas, il y aura bientôt une voie de moins. Ça va vous intéresser, ça, Pascal, écoutez.
Dans le projet pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a notamment la création d'une voie olympique pour aller d'un site à un autre. Évidemment, pour nous, cette voie dédiée, c'était aussi la préfiguration grandeur nature de quelque chose qui pourra se pérenniser. En voie pour le covoiturage, les transports collectifs et les taxis, qui, bien sûr, se fera dans le cadre de toutes les procédures légales et des concertations légales.
Anne Hidalgo au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire.
La guerre en Ukraine, et ça y est, c'est fait. La Suède et la Finlande ont officiellement déposé leur demande d'adhésion à l'OTAN.
Dans le même temps, la Russie annonce à l'instant l'expulsion de 34 diplomates français en représailles, dit Moscou, aux expulsions qui avaient été réalisées par la France au mois d'avril. Pas de réaction pour l'instant du côté du Quai d'Orsay. Sur le terrain, la ville de Mariupol, elle, est sur le point de tomber aux mains des Russes, Émilie Beaujard.
Oui, après plus de 10 semaines de siège, ces dernières heures, plus de 900 combattants ukrainiens se sont rendus, selon les Russes. Des hommes aux barbes longues, aux cernes noires, certains gravement blessés. Ils étaient tous dans l'usine d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. Tous ces prisonniers ont été transportés en bus vers une destination inconnue. Se pose maintenant la question de leur sort. Où vont-ils ? Comment vont-ils être traités ? Kiev espère un échange de prisonniers rapide, car tous ces hommes sont considérés comme des héros en Ukraine. Ils ont réussi à défendre Mariupol pendant plus de 10 semaines, mobilisant les forces, l'artillerie et les munitions russes autour de cette ville martyre.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Certains diront que ce sont les risques du métier. On vous en parlait ce matin sur RTL. La grosse mésaventure de ce cycliste érythréen blessé par un bouchon de Prosecco en fêtant sa victoire d'étape hier sur le Giro. Bonjour Eric Silvestro.
Bonjour.
On a appris ce matin qu'il était forfait pour la suite.
Oui, c'est donc un fichu grain de liège généreusement imbibé de ce cousin italien du champagne qui a stoppé momentanément la folle ascension de Binyam Girmay, premier cycliste noir vainqueur d'une étape sur un grand tour après avoir déjà inscrit son nom au palmarès de la classique Gent-Wevelgem cette saison. Le coureur de l'équipe Intermarché Vanti-Gobert n'a donc pas pris le départ de la 11e étape du Tour d'Italie aujourd'hui en raison de lésion à l'œil gauche. Une décision de raison pour le coureur de 22 ans qu'il a expliqué ce matin en revenant sur sa péripétie de la veille lors de la cérémonie sur le podium après son sprint magistral face à Mathieu Van Der Poel.
I was a bit sad. J'étais un peu triste après ce qu'il s'est passé avec le champagne, mais quand je suis rentré à l'hôtel, l'équipe était super contente. Un peu inquiète aussi, mais quand ils ont vu que ça allait, on a pu fêter la victoire. J'ai décidé de ne pas reprendre la course parce que je dois laisser mon œil au repos. Mais merci à tout le monde de m'avoir supporté, d'avoir été derrière moi. Je vais bien désormais, on va se revoir bientôt.
Et pourquoi pas sur les routes du Tour de France à partir du 1er juillet. Son retrait prématuré du Giro pourrait en effet modifier les plans de son équipe et l'encourager à l'aligner sur la grande boucle.
Récit signé Eric Silvestro. Merci à vous.
Et puis à une époque où il est beaucoup question de pouvoir d'achat, eh bien voilà un chiffre qui nous a interpellés. 1,2 milliard d'euros dorment dans nos placards.
1,2 milliard, c'est colossal. Ce sont des tonnes de t-shirts qu'on achète, mais qu'on ne met jamais. C'est ce que révèle une enquête Kantar. On en a en moyenne 17, dont 7 qui ne servent jamais, Martin Choc.
Sur tous mes t-shirts, je pense que j'en ai genre une quarantaine de t-shirts. Quarantaine de t-shirts sur les 40 par semaine, on va dire que j'en mets quoi, 4-5. Non, vraiment, moi, c'est pire.
Ah ouais, là, vous êtes largement au-dessus de la moyenne et il y a plus de la moitié des t-shirts qui servent à rien.
Bah, je suis une femme. Je suis une femme, voilà. C'est
tout. Oh, j'en avoir peut-être une quarantaine et je dois en mettre peut-être 15, voilà, dans l'année, quoi. Donc, il y en a 25 qui restent au fond du tiroir.
Comment vous l'expliquez ?
Bah, écoutez, on a envie d'avoir des trucs nouveaux. Alors, voilà, on achète des trucs nouveaux, on les met 3 fois de suite et après, on les oublie et puis ça recommence en permanence, quoi.
Alors, je vais vous faire réagir à un deuxième chiffre qui fait réfléchir, toujours selon cette enquête, qui nous dit que, vous savez, les t-shirts sont majoritairement faits en coton et que pour produire 1 kg de coton, ça équivaut en eau à 70 douches.
Oui, mais je savais, c'est horrible. Mais j'essaie d'aller dans les friperies souvent. Après, des fois, bah, on n'a pas trop le choix.
Eh ben merci madame. Merci à vous. Madame, bonne journée. Merci à vous.
Voilà le reportage de Martin Choc pour RTL. Vous en avez des t-shirts qui ne servent à rien ?
Non, parce que...
Vous ne mettez pas de t-shirt.
Si, mais je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas porté sur les 12 derniers mois. Je le donne ou je le jette. Mais il n'y a aucune raison que je veuille le porter après. Ça, c'est
la règle
très bon
qui est
critère.
Fixée, qui est conseillée en tout cas par tous les personnels shoppers.
Mais bien sûr, ce qui me permet de dire à ma maman qu'elle a des robes de 1970 dans ses placards. Il y a peu de chances qu'elle les porte. Je lui dis pourquoi tu les donnes pas. Elle me dit on ne sait jamais. Et 12h42, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Quand on peut plus mettre les hommes et les femmes qui sont nécessaires à assurer ce service, eh bien effectivement on réduit la voilure, ce qui est le cas dans une centaine de services aujourd'hui en France.
Plus d'une centaine de services, c'est déjà arrivé qu'il y en ait autant ?
Non, c'est pas arrivé. Surtout au printemps, on sait qu'il y a toujours des moments difficiles, début août, quand tout le monde part en vacances, entre Noël et jour de l'an. Mais là, on n'est pas dans ces périodes de tension. Il y a vraiment un chantier immense à remettre en place parce que sinon, c'est le système de santé qui est en train de s'effondrer.
Et c'était ce matin sur RTL. Frédéric Valtoux, le président de la Fédération hospitalière de France, lançait un appel après la fermeture d'une centaine de services d'urgence faute de personnel. Une centaine, vous l'avez entendu, c'est du jamais vu. Dernier en date, celui du CHU de Bordeaux, 9e ville de France. On le rappelle, à partir de ce soir, seuls les cas graves, les vraies urgences, seront prises en charge. Bonjour Benoît Elbod.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. D'abord, on va essayer d'être extrêmement concret. Quels sont les cas, les patients qui ne seront plus pris en charge au CHU de Bordeaux ?
Alors, donc tous les cas seront pris en charge au CHU de Bordeaux, puisque le CHU de Bordeaux a deux services d'urgence qui sont à 3 stations de tram de distance. Et un seul des deux services d'urgence, celui qui s'occupe des cas les plus graves, c'est-à-dire qu'il y a le plateau technique pour les accidents vasculaires cérébraux, les polytraumatisés ou les grands brûlés, donc celui-là ne pourra être accessible qu'après régulation, c'est-à-dire en passant par le 15. Et si des patients se présentent à la porte, ils seront accueillis par un agent de la sécurité civile et il y aura un interphone avec un médecin régulateur. Et si c'est vraiment une urgence vitale, évidemment, les portes seront ouvertes et le patient sera pris en charge. Mais l'autre service d'urgence du CHU, comme les 6 autres encore services d'urgence de la ville de Bordeaux, dont un nouveau service d'urgence qui ouvre demain sur la rive droite, pourront prendre en charge tous les patients.
Et du coup, en fait, d'après vous, il n'y a pas de problème ?
Alors non, la situation n'est pas satisfaisante, mais elle est maîtrisée. Évidemment, quand vous avez l'habitude d'avoir, vous savez, le principe d'un service d'urgence... C'est une meilleure organisation pour réserver ce service d'urgence sur le site de Pellegrin. Alors, cette régulation à l'entrée ne se fait qu'entre 20h et minuit. Bien sûr, toute la journée, les patients pourront venir et seront accueillis tout à fait normalement. Mais ce service d'urgence sur les deux du CHU a cette particularité, encore une fois, qu'il fait les urgences lourdes, qui fait que même les autres services d'urgence lui transfèrent des patients. Parce que c'est le seul service d'urgence qui traite certains cas extrêmement graves. C'est pour ça qu'on veut préserver ce site pour les urgences graves. Et c'est parce que, notamment, il a ces urgences très graves que les équipes doivent être expérimentées, que c'est le seul service d'urgence de la région qui ne peut pas faire appel aux intérimaires, puisqu'il faut des urgentistes dès l'équipe.
Vous avez entendu Frédéric Valtou, on en a passé un extrait ce matin, qui parle d'une centaine de services d'urgence fermés aujourd'hui en France, faute de personnel. C'est, dit-il, du jamais vu, en tout cas à cette époque de l'année. Hein. Il dit l'été, ça peut arriver, mais là non. Vous avez, vous, du mal à recruter quel type de personnel ?
Alors tous les personnels, alors évidemment c'est plutôt les médecins urgentistes mais aussi les infirmières, mais aujourd'hui quand on doit fermer un service d'urgence c'est principalement parce qu'on manque d'urgentistes, et en effet ça arrive un peu tôt dans la saison, comme l'a dit Frédéric Valtou, on avait l'habitude l'été avec les vacances et les congés, et là c'est vrai que ça arrive un peu tôt dans l'année, on fait le même constat de difficulté, mais encore une fois jusqu'ici on a réussi à mettre en place des dispositifs qui font que ça ne faisait pas porter de risques et de pertes de chance pour les patients, notamment de maintenir les lignes SMUR, vous savez, c'est ces transports médicalisés urgents qui vont à domicile pour prendre en charge les patients qui ont besoin urgemment d'avoir accès à ce type de médecin et aux prises en charge possibles rendues par leur expertise.
Mais sur cette difficulté de recruter, et dans plein de domaines, on s'aperçoit qu'il y a avant et après le confinement, comme si le confinement avait changé les choses. Est-ce que vous diriez que c'est plus difficile aujourd'hui pour vous de recruter des infirmière qu'il y a 2 ans.
Tout à fait. Alors, il y avait une tendance qu'on connaissait, mais le Covid et la crise du Covid a accentué cette tendance, notamment parce que, alors, 2 choses. D'une part, les professionnels sont usés par 2 ans de Covid et de prise en charge des patients, et l'hôpital a été fortement sollicité. Depuis 2 ans, vous savez, dans de nombreux hôpitaux, les personnels n'ont pas pu prendre 3 semaines de vacances de suite. On leur imposait de répartir leurs vacances par petits bouts pour qu'il y ait toujours du personnel. Donc, c'était une tendance qu'on connaissait, ça s'est accentué après le Covid. Et la deuxième raison, c'est qu'après le Covid, ce dont on se rend compte, c'est que le poids dans la société de travailler la nuit, de travailler le week-end, de travailler le soir, est de moins en moins accepté. Et donc, il faut qu'on fasse des efforts pour valoriser les professionnels qui acceptent de travailler dans ces conditions.
Et on le voit dans votre domaine, mais également dans la restauration et dans d'autres domaines. Merci beaucoup, monsieur Elbord. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence régionale de santé, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Il est 12h50, c'est un procès qui passionne l'Amérique, c'est Johnny Depp face à Amber Heard. À tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Cette photo montre une blessure sur le visage de monsieur Depp. Je ne suis pas d'accord, il n'est pas blessé sur cette photo. Cette photo a été photoshopée.
C'est un procès qui, depuis des semaines maintenant, passionne l'Amérique. Johnny Depp face à Amber Heard. L'acteur poursuit son ex-épouse en diffamation après ses accusations de violence conjugale. Bonjour Marion Alombert.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la rédaction de Voici et vous suivez de près ce procès. Depuis le début, on entend, on voit des détails sordides, intimes, étalés au grand jour. Pourquoi est-ce que les Américains s'intéressent autant à ce procès ?
Parce que Johnny Depp est l'un des acteurs les plus populaires aux États-Unis, notamment avec toute la franchise Pirates des Caraïbes. Ça a été un moment l'acteur le mieux payé dans le monde entier. Et voilà, c'est une star internationale depuis très longtemps. Et évidemment, il y a l'attrait pour le people et aussi pour ce type de divorce et de détails assez effectivement sordides qui tient toujours en haleine les spectateurs, les lecteurs, les fans.
Ce qui est tout à fait étonnant, et ça ressemble évidemment à de la télé-réalité, c'est que les deux ont donné leur accord pour que ce soit filmé. Ça ne serait pas possible en France. Mais pourquoi ont-ils donné tous les deux leur accord pour que ce soit retransmis ?
Parce qu'au-delà de l'affaire judiciaire, en fait, c'est surtout une affaire d'image. Et finalement, le vrai gagnant sera celui qui continuera à avoir des contrats et qui continuera à avoir l'opinion publique avec lui. Quel que soit l'arrangement financier qu'il peut y avoir ou même le jugement qu'il y aura, le vrai problème pour Johnny Depp est de redorer son image et donc de paraître le plus sincère et le plus sympathique possible, quelle que soit finalement la décision que prendra la juge.
C'est ça l'enjeu pour chacun d'entre eux, pouvoir continuer à exercer leur métier ?
Pour Johnny Depp, oui, puisqu'il a été mis complètement de côté, à part pour quelques marques, quelques grandes marques, complètement mis de côté par Disney. Donc, il a sorti la franchise Pirates des Caraïbes. Ça, il a été que sur des projets mineurs et il a dû revoir vraiment à la baisse ses cachets. C'est quelqu'un qui en plus a vraiment des problèmes d'argent, et donc du coup pour lui il est très très important que les studios finissent par le reprendre et le refaire jouer. Lui, ce qu'il joue là, c'est vraiment sa carrière.
Alors on rappelle que Johnny Depp demande 50 millions de dollars et que Amber Heard demande 100 millions de dollars, donc on est quand même sur des sommes assez importantes. Et dans la dernière audience même, Amber Heard a été très déstabilisée par le contre-interrogatoire des avocats de Johnny Depp. Est-ce que vous diriez que l'opinion publique a déjà choisi son camp ?
Oui, complètement. De toute façon, depuis le début, hein, Amber Heard a une image qui est très compliquée. Johnny Depp a un capital sympathie énorme. Ça fait longtemps que l'opinion publique s'est rangée du côté de Johnny Depp, mais là, c'est vrai que depuis lundi, et le contre-interrogatoire d'Amber Heard, où elle est vraiment mise à mal, hein, sa version des faits est assez remise en cause par l'avocat de Johnny Depp, qui a été assez agressive et qui l'a vraiment poussée dans ses retranchements, qui l'a obligée à avouer qu'elle avait menti sur certains points dans ses dépositions. Donc là, c'est vrai que pour Amber Heard, l'image est extrêmement abîmée. Il y a une pétition qui a été lancée pour qu'elle ne fasse pas partie du film Aquaman 2 et du reste de la franchise, donc d'Aquaman. Et il y a aussi sur TikTok, il y a eu toute une pétition lancée pour anti-Amber Heard. Il y a eu plus d'un milliard de personnes qui se sont manifestées. C'est vraiment énorme. Un million, pardon, de personnes qui se sont manifestées. C'est vraiment pour elle un désaveu, hein, du public. Elle joue le rôle de celle qui en fait trop. Elle a cette image de beauté glacée. La façon dont elle se comporte au procès, c'est-à-dire effectivement où elle surjoue un peu pour les gens, malheureusement, hein, parce que juridiquement c'est pas du tout le cas. Elle est dans un témoignage finalement auquel personne ne croit.
Marion Alombert, vous êtes, je le disais, la directrice de la rédaction de Voici. On l'a dit, ça intéresse beaucoup les Américains. Est-ce que ça intéresse les Français ? Est-ce que vous le voyez, vous, dans vos ventes ? Je ne sais pas.
Oui, alors dans les ventes, c'est pas nos couvertures principales, mais évidemment on le voit sur le digital, hein, puisque ce sont des grosses audiences. Johnny Depp, c'est pour les Français, hein, l'ex de Vanessa Paradis, oui. Hein, donc c'est quelqu'un, au-delà du fait que nos lectrices le connaissent depuis très longtemps, hein, depuis 21 Jump Street, évidemment on s'est beaucoup attaché à son histoire avec Vanessa Paradis, et quelque part tout le monde avait envie que l'histoire avec Amber Heard ne marche pas, puisque la plus belle histoire pour nos lectrices c'était Johnny et Vanessa. Donc voilà, il y a évidemment un intérêt très fort pour les lecteurs et les lectrices de Press People.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est sidérant de voir ces images et de voir notamment l'avocate dont vous parliez, l'avocate de Johnny Depp. On a vraiment le sentiment d'être dans un film et de suivre un interrogatoire, et tout ça est retransmis en direct à la télévision américaine. Il est 12h58. Virginie Garin est avec nous. Nous allons parler notamment avec les auditeurs, pourquoi pas, de la chaleur.
Bonjour Pascal.
Bonjour Virginie Garin. Vous resterez peut-être quelques secondes. La chaleur, est-ce qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'il y a 30 ans ? La réponse est oui. À tout de suite. RTL Midi.